La semaine de l'heure du documentaire sur le thème des vacances se termine. Les juilletistes sont rentrés, les aoûtiens sont partis. Mais nous, nous restons en vacances. C'est le moment de fureter, de fouiller, de flâner. Et pourquoi pas de vous promener sur les ports. Approchez-vous des peintres des bords de mer. Ils ont planté leur chevalet et vous offrent des paysages maritimes de toutes les couleurs. C'est là que vous emmène aujourd'hui une histoire particulière. Il est mort en 1916 dans les Côtes d'Armor. C'est un peintre de la vie maritime et de la Bretagne de la fin du 19e siècle dont on ne sait rien ou presque. Dans la famille Faudac, je voudrais un douanier. Il y a le grand-père, le père et le fils. Celui qui nous intéresse, Louis-Marie. Malgré son désir de devenir peintre jeune, il finit par rejoindre la lignée familiale. C'est donc en dehors de son travail dans l'administration qu'il se passionne pour le dessin et l'aquarelle. Il prend des cours et petit à petit, il commence à exposer en s'inspirant de l'école de Barbizon. Faudac a durant toute sa vie arpenté la côte du Trégor goëlot, remplissant des dizaines de carnets de dessins en utilisant toutes les techniques, crayons, fusains, encre, aquarelle, huile. Il s'attache à rendre chaque scène dans ses moindres détails et de façon extrêmement vivante. Le peintre post-impressionniste Paul Signac collectionnera les dessins et les aquarelles de Faudac et essaiera de promouvoir son œuvre dans les années 30. Promenons-nous aujourd'hui avec Nejma Bouakra, François Test et l'ethnologue Guy Prigent, passionnés par le travail du peintre, qui trouvent dans ses œuvres une source de renseignements inépuisables sur la vie à son époque, aussi bien en bord de mer que dans la campagne environnante. Aujourd'hui, on navigue sur les flots avec gouache et pinceau. Kenavo ?
Moi, je me rappelle d'un petit bonhomme là, qui descendait la route et puis c'est tout, là, comme ça. Je ne peux pas dire comment était sa figure, ni ça, c'est pas possible, ça. Je ne sais pas. Personne ne savait qui peignait, premièrement. Mais Faudac, dans le quartier, personne n'en parlait, c'est bizarre. J'ai jamais entendu ma mère parler de Faudac, j'ai jamais entendu les voisins parler de Faudac. On disait la maison de Faudac. Si on avait besoin d'aller dans la Londe ou chez Thomas, on disait c'est par chez Faudac.
Mystère Faudac, chroniqueur de la Côte-Nord.
Et j'ai été surprise. Quand on a sorti l'histoire de Faudac, j'ai acheté le bouquin et de voir toutes les peintures qu'il avait faites et puis son histoire. Mais il était fort pour peindre des bateaux. Hein. Il a peint beaucoup, Plougrescant, le Sillon du Talbert,
oui.
Tout ça.
Oui.
Oui. Oui.
Émilienne Alamat. Émilienne Alamat, j'ai dû la connaître en 2002-2003. Et c'est la seule personne, à ma connaissance, qui ait rencontré Faudac. Quand on dit rencontrer, elle a aperçu Faudac, qu'elle décrit très bien au niveau de son allure, bien habillée, différent des gens du pays. Donc, dans les années 1915-1916, avant que Faudac ne décède. Et c'était une enfant qui devait avoir 6-7 ans, puisque lorsque j'ai enregistré Émilienne, elle devait avoir pas loin de 100 ans.
À peine aperçue, pas pris au sérieux par les peintres des salons parisiens, ni ceux de la marine, à l'écart des grands destins, même pas le pied marin, à l'écart de la vie des gens, drôle de bonhomme, elle est fixée comme ça sur le papier en tenue de travail, elle est regardée de loin, des heures. Ce douanier aurait pu ranger définitivement ses cahiers d'écolier dans une malle avant d'être lui-même ajusté dans un cercueil. Seulement, l'homme avait pris l'habitude de distribuer carnets et dessins sur les charrois, aux orphelins, aux passants. Il donnait de l'importance aux moindres détails de la vie entre terre et mer. Un autre homme, 100 ans plus tard, Guy Prigent, ethnologue, réalisant l'inventaire du Trégor, s'est mis à la recherche du peintre comme on irait sur les pas d'un aïeul avec qui l'on partage la même obsession, décrire la vie sans cesse renouvelée sur la côte nord.
Thank you.
Mystère Faudac ou Monsieur Faudac, il est étonnant, ce peintre douanier. À quoi ressemble-t-il ?
Faudac, il a des moustaches. Est-ce que la seule photo que nous avons de lui, il devait déjà avoir une soixantaine d'années. Donc il est plutôt grisonnant, il fait plutôt vieux monsieur, sérieux, avec un petit sourire néanmoins en coin un peu énigmatique. Il est très bien habillé. Il porte gros souliers, guêtres, canne ferrée, veste en velours avec des boutons en forme de tête de chien. Très élégant. Il se promène souvent avec son chien, seul, solitaire. Lorsqu'il a acheté une maison en 1900 à Ploubalanec, il avait une bonne. Mais c'est quelqu'un d'assez fantasque dans la mesure où il se promenait de jour comme de nuit, ce qui lui a valu l'appellation Gobe-la-Lune. Et il rentrait chez les gens avec beaucoup d'affabilité. Et lorsqu'on lui faisait remarquer qu'il était nocturne et qu'il était déjà une certaine heure, il s'excusait. Et en fait, il allait chez les gens pour montrer ses dessins, les offrir.
Un noctambule.
Noctambule, oui. Et d'ailleurs, beaucoup de ces petits dessins aquarellés sont réalisés soit au lever du jour, soit au coucher, avec très souvent des soleils jaunes-orangés dans le cadre.
C'est un peintre marcheur, c'est un peintre qui ne reste pas dans son octroi.
C'est quelqu'un qui arpente les quais, les grèves en permanence, qui va dans la vase très certainement, et qui à travers son rôle de douanier, hein, puisque le douanier doit contrôler les marchandises, il doit aussi s'intéresser lorsqu'il y avait par exemple l'embarquement de sel. Il va prendre ce qu'on appelle le manifeste du bateau, s'intéresser aussi à la qualité du bateau. C'est peut-être aussi pour ça que quand on voit ses dessins, on est capable presque de dire le tonnage du bateau, bien sûr son gréement, et qu'est-ce que transportait ce bateau. Je ne crois pas qu'il naviguait, même si on va dire que les navires vus de terre, je ne pense pas qu'ils se trompent au niveau des manœuvres, bien au contraire, ils ne se trompent pas. C'est très précis, c'est très justement chromophotographique, il fait des accélérés. On voit un navire dans une manœuvre pour descendre ou pour hisser une voile ou pour changer de gréement. Il va reprendre le dessin comme une bande dessinée, justement, avec plusieurs figures. Et on voit l'accéléré, on voit le mouvement.
Une des rues principales de Paimpol, avec Yann Le Boeck, un des tout premiers acheteurs de Louis-Marie Faudac.
C'est ici, c'est la rue principale qui menait donc à Tréguier et Les Ardrieux. C'est la rue qui menait à Tréguier, Lannion, Les Ardrieux.
Les affaires maritimes, vous nous y emmenez ?
Donc les anciennes affaires maritimes, hein, qui étaient là au 19e siècle, qui devait être la rue de Ploubazlanec. Et donc dans cette rue, au milieu de la rue, il y avait se trouvaient les affaires maritimes de l'époque. On distingue la maison, là. Sur la gauche, la maison qui est un peu plus haute que les autres. Voilà. Avec des volets verts. Donc, c'était l'emplacement des affaires maritimes. Donc, elle a dû fréquenter Faudac très souvent.
De quoi s'occupait-on, aux affaires maritimes ?
Certainement de l'immatriculation des bateaux, des arrivées, des sorties... des marchandises, des contrôles généraux sur la vie maritime.
Là voilà, c'est cette maison-là ?
À gauche.
Un peu plus haute ?
Voilà, juste là, derrière le panneau.
Yann Le Boeck, comment ces œuvres de Faudac sont-elles tombées du ciel ? Par quel heureux hasard avez-vous trouvé des Faudac ?
Comment ils sont arrivés ici ? On ne le sait pas, on peut juste le supposer. On peut supposer que Faudac étant lui-même étant douanier, a dû fréquenter assez assidûment cet endroit, et A-t-il donné ou laissé un ensemble de dessins? On ne saura jamais. Toujours est-il que quasiment un siècle plus tard, on a le propriétaire des lieux a retrouvé dans son grenier cet ensemble de dessins.
Qu'est-ce qu'il a de remarquable, ce lot?
Eh bien, c'était qu'il était intact, il n'avait pas bougé depuis. Ça n'avait pas bougé depuis que Faudac l'avait déposé. Donc, ce qui était remarquable dans ce lot-là, c'est qu'il y avait quasi toute la diversité des sujets qui intéressaient Faudac.
À peine les cahiers réunis, les voilà vendus au plus offrant. Aucune ville ni musée n'ont eu le temps de se porter acquéreur. À Lokivi, à deux pas de la lande du peintre, Guy Prigent tente de parer à la dispersion des œuvres. Il rassemble une partie des peintures de Louis-Marie Faudac et des saints. Sait-on jamais? D'autres œuvres tomberont peut-être des greniers dans ses filets, telle une pêche miraculeuse.
Puisque en fait, il fréquentait aussi bien, je dirais, les petites gens, les gens du peuple, qu'aussi bien les armateurs, la famille Roman, par exemple, Lambert, à qui il donnait ses dessins. Donc, dans ces familles-là, aujourd'hui, on retrouve des dessins. Ouais. On a même retrouvé un dessin de Faudac qui était réalisé sur du papier cellophane d'une boucherie de Paimpol.
Ah bon?
Oui. Tout à fait étonnant. Il utilisait en fait tous les supports qu'il avait sous la main lorsqu'il voulait croquer.
Ces petits cahiers d'écoliers, là, c'est rigolo. J'en ai vu même quelquefois de ces petits cahiers d'écoliers, enfin les reproductions bien sûr, où il avait fait le dessin et il avait marqué rouge, bleu.
Oui,
vous voyez, il écrivait en se disant chez moi je rajouterai les couleurs. Quoi.
Guy Prigent, c'était difficile de trouver toutes ces œuvres là?
Difficile dans le temps, dans la mesure où ça fait presque 20 ans que je travaille sur l'œuvre de Faudac. Et les premières œuvres, on les a trouvées dans une galerie de Rennes, des œuvres que j'ai fait acquérir par le musée de Saint-Brieuc. Et puis ensuite, auprès de la famille, qui méconnaissait complètement l'œuvre de Faudac. Et c'est à la rencontre avec un ancien curé, ma foi, qui, tout le long de ses missions, transportait dans des cartons des carnets de dessin, des huiles... de Faudac, mais connaissant un peu l'œuvre de son ancêtre, que ce soit sa qualité artistique ou ethnographique. Et en fait, à travers l'exposition, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a énormément de gens qui viennent voir l'exposition et qui nous disent « mais nous avons un Faudac, soit on l'a acheté, soit il est dans la famille depuis un certain nombre d'années, depuis des dizaines d'années, mais on n'en connaît pas la provenance. » C'est le cas d'une femme qui habite Paris, mais qui a une maison à Bréa, qui a une dizaine de carnets extraordinaires, dont quelques-uns sont ici. Elle n'en connaît pas la provenance, à part que c'est une famille qui est très anciennement établie à Bréa.
C'est vrai, moi j'étais gosse aussi. Hein. Pour moi, c'était un vieux bonhomme, vêtu proprement à comparer aux paysans du pays. C'est tout. On savait qu'il y avait un monsieur Faudac, mais on ne cherchait pas à savoir qui il était, ni quoi, ni comment.
Là, en fait, on a affaire à une scène de régate en baie de Paimpol. On se prépare à embarquer sur les canottes et puis sur les voiliers. Et il y avait des régates pour les bateaux de travail, pour les bateaux de pêche locales, et puis des régates aussi pour les yachts, quoi, les bateaux de pure plaisance. Vous voyez, là, on voit plutôt des bateaux de travail, à mon avis, parce qu'ils sont gréés en aurique. Quand on voit le nombre de personnes à bord, d'une part, quand on voit l'affairement, ça grouille vraiment autour des bateaux, ils se préparent à partir, vous voyez, ils ne sont pas encore en mer. On lève les voiles, on hisse les voiles plutôt. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sur des canottes, sur des petites barques, des petits miséniers.
Ce qui est merveilleux, moi, je trouve, c'est que vous avez des couches de la vie, des fines couches de la vie de couleur aussi. Il va rajouter un petit peu d'aquarelle, des crayons de couleur, un peu de pastel. Il utilisait toutes les techniques et chaque technique, en fait, va donner vie, va donner mouvement et détail en même temps. Vous voyez, c'est extrêmement détaillé. Et c'est vivant. On est dans la réalité et on est en même temps dans l'imaginaire. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux.
Moi, j'aime bien cet endroit-là parce que c'est marée basse. On est toujours dans le lac Faudac.
La plupart des peintures qu'on a pu voir, ce sont des marées basses. Des marées basses parce que je pense que ça lui permettait de regarder les bateaux suffisamment longtemps pour pouvoir les dessiner, pour pouvoir vraiment prendre l'ensemble des informations. C'était un douanier, Faudac. Donc le volume des coques, tout ça, ça, rien ne lui échappait à marée basse. C'est des gens qui travaillaient donc d'après nature. Il n'y avait pas d'appareil photo. Et ils cherchaient évidemment à recueillir un maximum d'informations. Mais en partant toujours d'une première, c'est le milieu, le paysage. Alors je ne sais pas comment ils l'appelaient, mais c'était cerner la lumière, la topographie et la façon dont se posaient les coques.
Loïc Courrouge, vous naviguez ?
Pas assez.
Parce que vous, les coques vous intéressent aussi, hein ? Les coques de bateau, vous êtes
oui,
plasticien.
Oui, oui, elles sont forcément très intéressantes. Ce sont des témoignages, ce sont des morceaux de vie, ce sont aussi des pans entiers d'une culture qui disparaît. Là, dans le port de l'Olivier, si on jette un coup d'œil, il reste 5 coques en bois, pour la plupart reconstituées. Tout le reste, c'est du plastique.
Qu'est-ce qu'elles racontent, ces coques de bateau que vous pouvez retravailler
Ce qu'elles racontent, elles racontent ce qui préoccupe en général les gens dans ces espaces-là, c'est le temps, c'est le passage du temps. C'est vraiment une question autour de la vie, de la survie pour certains et du passage. Je pense que c'est ça que ça raconte. En tout cas, c'est ce que moi je ressens.
Il faudra qu'il est attentif aussi au temps, au signe du temps.
Oui, oui. Je pense que lorsque je disais tout à l'heure qu'il s'intéressait d'abord au milieu, la notion de temps est présente. On sait exactement à quelle heure de la marée il est. C'est très précis.
Et les conditions atmosphériques.
Voilà. On peut, d'après les images qu'on a là, pratiquement savoir le coefficient de marée où il a fait son travail. Bon, ça fourmille d'informations, en fait.
Un estuaire très profond. La mer est à 5-6 km. Devant nous, on voit encore des traces de l'eau salée avec de la salicorne. La vase est très sombre, très très noire. C'est aussi un peu hostile ici. On n'est pas du côté de la côte balnéaire, croquée, pleine de couleurs. Hein. C'est un petit peu sombre. On voit des capitaines qui ont planté quelques séquoias, peut-être des arbres venus de loin. Mais en même temps, ces couleurs ici, là, on est dans du camaïeux de vert sombre, noir, gris.
Oui, c'est très ombragé, hein, bien sûr, et on a encore justement des traces de l'activité de bornage ou de cabotage sur la rivière, puisque nous avons l'ancien four à chaux du Castellic, avec son quai, où les bateaux venaient charger de la chaux. Les caboteurs, lorsqu'il n'y avait pas le pont, remonter jusqu'à la roche pour livrer, par exemple, des pommes à cidre ou chercher des pommes de terre. Et d'ailleurs, le port de Tréguier a été maintes et maintes fois dessiné, croqué sur le vif par Faudac, en particulier la pêche aux huîtres au pied de la cathédrale. Pêche aux huîtres, on voyait grouiller des centaines de bateaux, des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants, venir à pied chercher les huîtres ou les draguer avec une petite drague à poche. Et cette pêche était extrêmement réglementée, et en particulier pendant la carême.
Et Faudac peint à hauteur d'homme, hein, on est à côté de lui. On est...
Ah, on est dans la vase, on est dans la glaise. Et on est vraiment en contre-plongée par rapport au quai, par rapport aux maisons d'armateurs ou à la cathédrale. Et c'est une pêche où il y avait beaucoup de contrebande, justement, et les douaniers devaient être extrêmement attentifs et présents autour de cette pêche.
Il faut dire qu'il enjambe deux périodes, deux temps. Hein. C'est un peu le chroniqueur aussi d'une période crépusculaire qui va s'éteindre, c'est-à-dire justement ces travailleurs de la mer.
Et on est justement donc au tournant du siècle. Et au tournant du siècle, on va voir se côtoyer la voile de travail, le bateau à vapeur des phares et balises, le garde-côte, les veilles, gréé en sloop, les petits miséniers, les bateaux sabliers, goémoniers de la rivière de Tréguier.
Ils sont là, toujours.
Ils sont encore présents, d'ailleurs. Et c'est une. Faudac, c'est un vrai chroniqueur de la vie rurale et maritime du Trégor.
Ce qui reste aujourd'hui de Faudac, si on
la vie reconduite chaque jour, finalement, sur les traces de Faudac, ce serait finalement les travailleurs les plus pauvres. Ce serait finalement les gens qui continuent à travailler sans avoir besoin de mécanique, à la main, les pêcheurs à pied.
Oui, c'est vrai, c'est juste, ce serait certainement ces pêcheurs à pied professionnels, hein, ou ces goémoniers à pied qui utilisent encore la wignette, la petite faucille qu'on va retrouver, qui existait déjà il y a 100, 200, 300 ans, ou encore ces radeaux de goémons, ces drômes, qu'aujourd'hui on va réactualiser avec des chalands qui vont transporter les algues.
Montfort. Louis-Marie Faudac a dessiné des paysages et une rivière que vous connaissez bien.
Très bien, oui.
Le Jaudy.
Je suis né là. On faisait surtout le goémon avec le père, puisque ça se vendait bien et pas mal payé, quoi. Donc, on avait une planche comme ça sur le bord du bateau. Vachement à peine, hein. On arrivait en courant dessus et 20 cm de large, attention, hein. Il fallait pas faire un faux pas juste quand on allait dessus, autrement balalac.
Vous êtes un fin connaisseur de la rivière, vous avez navigué de Poule d'Ouran jusqu'aux îles d'Air.
Moi j'ai pas beaucoup de Poule d'Ouran, hein.
Non.
C'est mon frère par la suite qui a fait Poule d'Ouran. D'accord. Et lui était tout seul. Parce qu'après la guerre, il n'y avait que du goémon épave. Il n'y avait pas de pêcheurs. Puisqu'à l'époque, je me rappelle, j'ai vu jusqu'à 30 et quelques en même temps sur la rivière. Vu, hein, en même temps. 30 et quelques qu'on était à remonter, à la voile tous. Ah ouais, il n'y avait pas d'essence.
Et c'est ce que peint Faudac, des tas de gens sur la grève. Il y a du monde, il y a du monde à l'époque.
Oui. Ah oui, pour la pêche aux ormeaux, hein, tout le monde y allait. Hein.
Qu'est-ce qu'il faut savoir de la rivière?
Premièrement, avoir vu toujours à marée basse, comment que c'est foutu. Ça, c'est la première des choses. Hein. Pour savoir où sont tous les dangers. Et là, au milieu de l'île d'Air, là où on passait, attention, hein, c'est pas ça qui manque. Hein. Quelquefois, à louvoyer, ben, ça durait pas longtemps. Hein. Tac, d'un coup, et aussitôt, vire de bord et l'autre côté.
Sans moteur.
Ah, sans moteur, oui.
Et alors, Yves Montfort, vous avez pêché de tout, on m'a dit. Du carrelet, du homard, des tas de choses.
Et du saumon.
Et du saumon.
C'est ça le principal qu'on faisait.
Et tu as vu draguer les huîtres en amont de la rivière?
Moi j'ai été fait aussi plusieurs fois. Ouais. Avant qu'il y avait des moteurs, c'était avec des avions. Les avions de mon père, ils faisaient 5 mètres de long. Et attention, et deux. Il y en a un de chaque côté et le vieux à la drague derrière.
À la drague?
Ah oui, parce que la drague c'est spécial. Si vous choquez trop, on n'embarque que de la merde. Et si on ne choque pas assez, il n'y a rien qui a dedans. Qui va dedans, quoi. Ouais. Voilà. Je vais me faire coller là.
Qu'il y a un monsieur qui vient d'arriver dans l'exposition avec sous les bras
un cadre avec certainement une œuvre, peut-être pour l'authentifier Faudac. On va aller voir.
Alors, est-ce que c'est un vrai ou un faux?
ça ressemble à un vrai quand même.
Ça ressemble à un vrai.
Oui.
Dis le premier coup d'œil.
Comme je me sauve en courant avec, c'est un vrai. Hein.
C'est une scène de naufrage et Faudac a souffert. D'ailleurs, il est signé.
Non, puis il y a les rehauts d'aquarelle pour l'eau, là. C'est magnifique.
Il est signé. Hein.
Oui, il est signé. Oui,
il est signé, sûr. C'est bien sa signature à Faudac.
Non, non,
c'est exceptionnel.
Il n'y a aucun problème. Hein.
Alors, il a fait quelques représentations de naufrages de cette façon-là, de scènes de cyclones, de bateaux qui se fracassent contre les rochers. Alors, c'est parfois un peu exagéré, mais néanmoins, on voit l'écume, vous voyez, des petits, à la gouache, là.
Très belle œuvre.
Hein. C'est une goélette ?
C'est une goélette à hunier, oui. Oui,
oui, Marie Faudac se trouve toujours un peu par hasard. Il est dans une famille, dans un grenier.
La difficulté aujourd'hui, c'est que l'œuvre de Faudac ayant pris une certaine cote, il y a des gens qui vont disposer de Faudac et qui vont les cacher en quelque sorte, attendre que la cote monte encore plus. Il y a des galeristes, des antiquaires qui ont acheté les Faudac et qui ont fait, qui ont spéculé en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui c'est rare, difficile de trouver des Faudac. Il y en a encore dans les familles. Moi, elles me font confiance parce qu'elles savent que je suis pas, un collectionneur ni un marchand. Donc, elles vont me les montrer beaucoup plus facilement. Puis parce que je m'intéresse vraiment au fond de l'œuvre, au sens de l'œuvre. Que dans l'œuvre de Faudac, on a des bateaux sabliers ou guémoniers de la rivière de Tréguier dont on ne disposait d'aucune représentation.
Nous sommes sur l'Anspélinec, à la fois du sable, de la vase, des roseraies, et puis face à nous, l'île Saint-Gilda.
L'île Saint-Gilda, l'île Marquère avec sa magnifique pêcherie, d'autres îlots encore, et puis cette zone d'échouage traditionnelle hein, des bateaux, et l'allée chartière en fait, qui permet comme un guet en fait, de traverser la baie. Et puis au fond de la baie, il y a cette belle roselière et le moulin à marée et les jardins de Pélinec.
Tout au bout de cet estran, on aperçoit un gué qui est parfois recouvert par la marée, Guy ?
Oui, un charrois.
Un charrois.
Pour passer d'une baie à l'autre ou pour aller dans la grève chercher du goémon ou tout simplement chercher les cailloux, les galets.
Quelques heures par jour, ce gué peut être traversé.
Oh oui, je pense qu'il n'y a qu'aux grandes marées qui doit être recouvert, en fait.
Et ce qu'on aperçoit dans les œuvres de Faudac, c'est que beaucoup de gens peuplent l'estran. Ce sont des familles nombreuses.
Oui, c'est vraiment on va dire le petit ou le peuple de l'estran, en tous les cas, certainement, puisque les familles, jusqu'à une période encore très très récente, pouvaient vivre de la pêche à pied. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, à l'âge de 10 ans, je passais mes vacances dans une famille où il y avait seulement la mère et les enfants et la grand-mère. Et ceux-ci vivaient exclusivement de la pêche à pied. Et donc, moi, je les accompagnais pour aller chercher des palourdes dans la grève en particulier et qu'on allait vendre dans les restaurants du coin. Et à cette époque-là, je dormais chez eux et je dormais sous l'escalier, dans un rampant, et je dormais sur un matelas qui était constitué, rembourré par du lichen, qui sentait bon. Et d'ailleurs, ce lichen était favorable aux gens qui étaient un peu asthmatiques, et je l'étais à l'époque. Et j'avoue que j'avais cette odeur d'algues que je trouvais très agréable. On pouvait aussi utiliser
si on ne disait pas du lichen. On pouvait utiliser aussi des herbiers des austères. Hein, ça faisait comme un paillage. Et avant de partir à la grande pêche, les femmes allaient couper cette paillole, allaient couper ces herbiers qui servaient donc à rembourrer les matelas. Donc on partait avec une part du pays.
Et vous, Guy, après avoir arpenté ce territoire enfant, vous avez décidé finalement presque de l'instruire ?
Oui, certes, mais moi j'ai une vie professionnelle assez compliquée, on va dire, assez chaotique, dans la mesure où je suis revenu au pays. Et puis j'ai repris des études en socio, en ethnologie, et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé dans mon travail de recherche sur les usages de l'estran, sur cette forme d'appropriation pratique et symbolique de l'estran. Et j'ai des dizaines et des dizaines de témoignages, de récits, on va dire, d'aventures en eau salée autour de la pêche à pied, mais aussi de la pêche côtière. Et je pense à Marcel Kenyek qui allait pêcher les plis avec des sabots cloutés, ou qui allait me raconter ses pêches pratiquement miraculeuses de bar, lorsqu'il allait s'isoler sur un petit îlot au bout du sillon du Talbert, ou qu'il me parlait de l'homme Padel, de Rantrao à l'Armor Pleuvian, qui pêchait juste ce qu'il était capable de vendre, c'est-à-dire qu'il avait ses clients, et il n'en pêchait pas davantage.
Terrain de pêche ici.
Ah, c'est mon terrain de jeu. Hein, comme je dis toujours, il y a 800 hectares à explorer là. Et quand je dis 800 hectares, c'est au pif parce que hein, la marée est très forte ici, un petit peu comme dans la baie du Mont-Saint-Michel. Hein, les coefficients sont, quand on a un coefficient de 112, 114, ben on a une, oui, comme je dis, 800 hectares au pif.
Et hier soir, la lune était pleine, oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est jour de grande marée.
Ah oui, et oui. Bon, une grande marée d'été, donc c'est quand même des petits coefficients, mais c'est quand même 90, ce qui est pas mal. Alors évidemment, ici, les gens, les pêcheurs à pied, ils voient ce côté-là, mais ils voient surtout la hauteur d'eau. Ah. Hein, la hauteur d'eau est signalée dans les journaux, donc des fois, il y a 1 mètre 10 ou un peu moins, ou 0,90 ou 0,80, et à partir de 0,65, ça devient très intéressant, parce que par ici, il y a, moi je ne suis pas un spécialiste des ormeaux, mais il y a des ormeaux, et donc les pêcheurs à pied du coin savent qu'ils partent avec leur petit sac, et puis ils vont pêcher l'ormeau au bas de l'eau. Alors il faut savoir que pour aller au bas de l'eau, il faut 1h30, 1h30, quoi. Ah oui, 1h30, hein. Pour
parce aller, que c'est bien ça, 2 km a, devant là.
Où on est là, on est à côté du sillon du Talbert, c'est beaucoup moins loin. Mais moi, si je vais à Penland, là-bas, il faut compter 7 à 8 km.
Pour aller jusqu'à l'eau.
Mais pas forcément en ligne droite.
Ah.
Et puis, il y a des rivières à traverser. Donc, il faut faire attention. Parce que quand ça baisse vite, ça remonte vite. Et là, il ne faut pas jouer. Ici, c'est un peu comme à la montagne. On ne joue pas avec la montagne, on ne joue pas avec la mer non plus.
Mais là, on se rapproche de la pêche professionnelle, hein, c'est-à-dire partout temps, on y va, on est sur l'estran.
Non, ça reste amateur, mais c'est un plaisir. Moi, quand la mer baisse, j'ai envie d'aller sur l'estran. Bon, je suis né à Saint-Malo, mon père était pêcheur à pied. Hein, il n'avait qu'un bras, il était manchot, alors il n'avait pas beaucoup de possibilités de faire d'autres métiers, mais il allait pêcher des coques comme ça, et il vendait les coques avec son vélo après. Et moi, je crois que j'ai gardé ça un peu dans mon sang. Alors je suis là que depuis 15 ans, sur Pleubian, mais aussitôt que la marée baisse, il faut que j'aille sur l'estran, c'est plus fort que moi.
Je suis venue à la maison avec mon canon. Arrivé au Rio, j'ai vu ton père et il lui marque, ton père dit comme ça, « Benusto, c'est pas Thérèse qui arrive là-bas. » Je n'allais pas arriver là encore. Oui, tout seul. Et le vélo avec moi, mais il y avait des vagues. Hein,
à la voile?
Non, à la godille.
À la godille, le
Oh oui, mais c'est pas long, tout le chenal, là. La mer continuait, le vent continuait à augmenter, puisque même les pêcheurs...
C'est Thérèse Frieck, de l'Ogivier de la mer, hein, qui évoque le temps où certaines femmes veuves de marins, souvent, pratiquaient la pêche côtière, mais à l'aviron, avec des petits canots comme celui-ci, là, le Waswen, et allaient donc à quatre femmes pêcher dans les îles de l'archipel de Bréa, les Prères, les Ormeaux et...
C'était des travailleuses. Hein.
C'était des travailleuses de la mer. Et on oublie souvent justement le rôle des femmes et leur place au niveau de la communauté maritime. Et c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que Faudacq dessine pas seulement les hommes au travail, mais aussi les femmes au travail et resitue leur place aussi dans le monde maritime, tout simplement pour travailler le poisson, pour le vendre, le commercer, avec des petites charrettes à bras, et qui font des kilomètres dans la campagne pour aller vendre le poisson de leur mari. Et ça s'est fait encore il y a quelques années, il y a très très peu de temps. Et Faudacq qui va dessiner ce commerce-là, ce petit commerce, cette vie quotidienne des hommes et des femmes de la côte.
Il peint aussi ce qui défraie la chronique. Il peint par exemple le naufrage de la Normandie, un quatre-mâts à vapeur dont le capitaine s'est fait sauter la cervelle.
Voilà. Oui, on est dans l'actualité. C'est un chroniqueur de la vie rurale et maritime. Certes, la vie maritime était certainement plus dangereuse que d'être ouvrier agricole, arracheur de lin. Et la chronique, c'est la grande pêche en Islande en particulier, et puis les naufrages entre 1880 et début 20e siècle. Qui vont défrayer la chronique, comme le cyclone de 1906, où 6 ou 7 goélettes vont naufrager. C'est l'assistance en mer, c'est pour ça qu'on va voir dessiner le Saint-François d'Assise. C'est aussi des cérémonies religieuses. Donc on va voir aussi dans ces dessins souvent des calvaires, le pardon des Islandais. Ça nous fait penser aussi à une cérémonie très symbolique qu'on va retrouver dans le Trégor, le Goëlo, et qu'on retrouve encore à Ouessant, c'est la proëla, qui n'est pas appelée ainsi chez nous, mais lorsque quelqu'un disparaît en mer, on va faire une cérémonie symbolique où on va mettre une croix en cire sur une table pour représenter le défunt qui est absent. Des journaux comme l'Illustration, hein, c'est un petit, ou le Magasin Pittoresque, c'est un petit peu le Paris Match de l'époque. Donc, peu de gens, certes, savaient lire ou pouvaient lire ces journaux. Je pense que la culture, elle était du peuple, et c'est surtout une culture orale. Mais néanmoins, c'est quand même des revues qui sont lues et on annonce, on décrit des événements tragiques. Et on a besoin de dessins, de dessinateurs. Pourquoi ? Parce que la photographie est encore rarissime. Il faut attendre 1895 pour que la photographie supplante le dessin, justement. Et par des procédés donc assez simples, en fait, on va pouvoir publier des gravures.
Nous sommes au vieux quai de l'usine de traitement d'algues de l'Armor Clouillan, à Penhom. Et nous allons sur Bréa. Nous allons partir prendre le trieux, traverser le trieux, prendre le chenal de Carpon jusqu'à l'ancienne cale de SNSM à Bréa, je crois, c'est ça, Guy ?
Oui.
C'est le chemin qu'ont toujours pris les anciens, ça ? C'est un classique ?
Ouais, c'en est un des nombreux chemins qu'ils ont dû prendre. Hein. Ouais, c'est un classique. Ouais.
Pas un pet de vent, ça se passait comment ?
Il y avait la terre, là je comprends pas. J'espère que tout à l'heure ça va peut-être. On est sur un bateau Guémonier des années 60.
Ouais.
L'un des derniers bateaux qui travaillait à la main. Et le patron de l'époque d'ailleurs l'avait vendu pour acheter un bateau plus grand et plus moderne à Cascobidou. Et donc voilà, on a réussi à sauvegarder un des derniers. Et on est très contents, parce qu'en plus, il navigue bien.
Et qui s'appelle la Madeleine.
Voilà.
Allons-y.
J'ai été voir Madeleine, ils l'ont mis à l'extérieur.
Oui, pour qu'on puisse partir tout à l'heure à la marée.
Vous savez, la peinture à voir, hein.
Ouais.
Je naviguais sur le même gommonier que
monsieur
que,
aussi.
Il s'appelait le Lucien. Nous, on faisait le Lasco avec ça. C'est un gommon qui pousse sur les côtes. Il fallait faire voir comment c'est. Et on allait chercher ça dans les îlots à Bréa, Maudet, où c'est qu'on l'entourait, quoi.
Et c'était lourd à charger ?
Alors, il fallait les couper, les pâter à la civière, les charger dans le bateau. À l'époque, on avait 17-18 ans.
Il n'y avait pas de chevaux ?
Ah ben non, c'était un beau pognon.
Et ça vous rapportait un peu ? Ça rapportait ?
Pas grand-chose, oui. Après, il fallait, pour les livrer à l'usine de la greffe, il fallait prendre une charrette qui s'appelait Crochio. Je faisais ça. Il fallait encore le payer, ton par tonne. Pour qu'on avait tout livré, il nous restait presque plus rien. Ouais, c'était comme ça. Il y avait tous les veufs de guerre, les veufs de marins. Les femmes qui n'avaient pas de boulot et les hommes, tout ça travaillait là. Hein.
L'argent que vous en retiriez, ça vous servait du coup à quoi à l'époque ?
Ben, l'argent, ben, c'était pour nourrir mes petits frères. C'est comme ça la vie. Hein.
À quoi servait Guy Prigent le Goémon ?
En fait, comme amendement pour les terres, mais aussi pour produire des alginates, aussi, c'est-à-dire des gélifiants qui vont servir dans l'industrie textile ou alimentaire ou autre, ma foi. Et comme tu disais justement, on remarque dans les dessins de Faudac les goémoniers embarqués avec des guillotines, ce qui est ce qu'on regardait ensemble hier, qui arrachent le goémon de fond.
Ça me fait suivre un peu, papa.
Monsieur Lostis, tout à l'heure, nous allons embarquer sur la Madeleine. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder ?
Elle est belle. Car c'était une ruine. Hein.
C'est là.
Je ne sais pas comment ils ont fait pour le mettre sur le porte-à-flot pour l'envoyer à la Madeleine. Ah, pleumeur. Comme j'ai vu comment il a été refait. Hein.
D'accoster sur l'île de Bréa. Le temps est un petit peu lourd, orageux, ça nous laisse craindre un petit grain. Tout est verdoyant ici. Quelle est l'histoire du peintre Faudac, l'île de Bréa ? Est-ce qu'il est venu jusqu'ici ?
Ah, je pense qu'il est venu à Bréa dans la mesure où son métier l'incitait aussi à surveiller les côtes et qu'il y a eu beaucoup de contrebande à Bréa, entre autres avec les Anglais. Et les douaniers étaient très présents à Bréa, donc il a cheminé à Bréa, d'autant que son grand-père y fut secrétaire de mairie, y a cultivé les pommes de terre, avant lui-même d'être douanier.
Devant nous, une maison au toit pentu, des volets blancs, évidemment des hortensias, toutes fleuries. Une petite maison exiguë. Qui allons-nous rencontrer, Guy ?
Nous allons rencontrer les sœurs Geffroy, hein, qui représentent, on va dire, je dirais pas la dernière ferme de l'île, mais en tous les cas, l'une des trois dernières fermes de l'île est tenue par trois sœurs. Vous voyez, ils viennent de faire les foins. Ils ont rentré les vaches, ils doivent être en train de les traire, je pense, actuellement. Et puis, il y a des gens qui viennent chercher du beurre ou des yaourts. Ce qu'ils barattent à la main, elle est encore le lait.
Bonjour.
Oui, on vient de là. Tiens, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais ?
Oui, je suis venu en bateau.
Ah, t'es en bateau.
On espérait venir vous voir avec Guy, on est venu, voilà.
Voilà.
Je dis, tiens, je vais vous présenter deux personnes qui connaissent bien l'île.
Je sais plus dans quelle...
Comme beaucoup. Ah, ça, c'est... je vois que vous avez très les vaches, là, non?
On a une.
Vous avez une vache?
Une vache.
Ah.
On n'est pas aux normes, ça, c'est pas un secret. Hein. Bon, vous enregistrez tout.
Tout.
Et, y compris l'accent.
Il a fermé son truc.
Bonjour madame.
Il a fermé pas fermé. Son... Hein. Albert, elle va pas être d'accord avec vous.
Zéro là-bas.
Zéro là-bas. Non, on n'a rien à faire non, particulièrement.
En fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si tu avais entendu parler de Faudac, le peintre douanier, et si tu savais...
Jamais.
Jamais.
Qu'avec madame Chenot. Et toi?
Mais toi, tu n'avais jamais entendu parler de Faudac?
Non, non plus. De qui veux-tu qu'on parle? Eh, patate? Non, pas patate. Non. Je ne sais pas qui tu pourrais trouver. Personne, de toute façon. Il n'y a plus...
Mais au début du siècle, à Bréa, aujourd'hui, il y a 300 personnes. Au début du siècle, il y avait peut-être un millier de personnes.
Oui, qui habitaient Bréa. Même en 1950.
Et il y avait plusieurs exploitations agricoles.
Mais il y en avait... Non, il n'y avait pas d'exploitation. Chacun avait une vache ou deux. Comme dans les pays de l'Est, certains petits pays. Hein, mmh. Les jeunes qui viennent et nous disent « Chez ma grand-mère, c'est comme ça ». Ben, je dis oui, nous aussi, on est des grand-mères.
Tes parents, par exemple,
ils faisaient deux métiers. Mon père faisait deux métiers. Ben, la pêche et la ferme.
Et la ferme.
La ferme punition. Et les gens du pays n'achetaient pas de poisson à ma mère. Hein. C'était une étrangère.
Ah bon?
Ah ben oui.
Elle a fermé son nom.
Pourquoi? Elle était du continent?
Non. Oui, elle était du continent, oui. Tu peux passer, tu peux passer.
De Rennes.
D'accord.
Donc, au temps de Faudac, il semble qu'on arrivait à survivre avec un petit lopin de terre et quelques vaches. Mais maintenant, par exemple, sur l'île de Bréa, c'est plus possible de survivre avec seulement deux, trois petites choses.
Non.
Bah non.
Non, non, non. Non. C'est plus possible. Déjà avec un métier à cotisation, c'est déjà très difficile.
Et on voit encore des quais pour le Guémont, on aperçoit encore.
Non, il
n'y
a plus rien
de
tout ça. Bon, oui. Là, là. Elle rêve de trop, la pauvre. Non, ben, il n'y a pas grand monde. Hein. À l'époque. Oui. Je songe.
Noël est rentré?
Non, Noël est à voir une dame qui n'a que 92 ans.
Oh là. Bah, ce matin, on était avec un monsieur de 90 ans, qui s'appelle Guémont, justement.
Nous voilà Bredouille. L'homme n'a pas fait parler de lui et rien ne l'attache plus au souvenir des Iliens. Il est temps de repartir en prenant le temps qu'il nous reste avant la terre ferme.
Allez, où ? Il faut essayer de pas prendre. On va essayer de pas rentrer dans le Benigut. Non, c'est parti, on n'est pas trop mal, ça. On va pouvoir rentrer tranquille, j'espère, au portant. Voilà. On entend les oiseaux, là. Il fait beau.
Ce bateau guémonier, il est creux pour pouvoir transporter du Guémont.
Voilà. C'était un bateau à cale.
Oui.
Donc, évidemment, nous, on a mis un plancher parce que c'est plus facile pour nous maintenant, mais dans le temps, il n'y a pas ce plancher-là. Si Jean-Claude Lostis avait été là, il était venu voir le bateau quand on le retapait. Il avait dit là-bas, devant, il y avait un petit endroit où on mettait la Sainte Vierge. C'est des petits détails qui me touchaient, moi. En général, les guémoniers partaient avec la marée descendante, passaient la marée à basse mer. Ils reviennent le soir avec le courant, avec des chargements de guémons, quoi, à l'époque. Bon, maintenant, c'est motorisé, ils passent où ils veulent, quoi. À l'époque, il fallait revenir avec le courant, il fallait calculer son coût selon le vent, le courant. C'était pas une vie facile, hein. Puis quand il y avait 4-5 tonnes de guémons dans le bateau, il ne s'arrêtait pas comme ça. Quoi. Tout fait à la main, les manœuvres, tout à la main. Il devait bien dormir la nuit, hein, je pense que...
Vous avez vu du monde sur ces bateaux guémoniers, enfant?
Alors celui-ci, moi j'avais à peu près une dizaine d'années. Mon père était guémonier à l'Armor aussi. Et donc le propriétaire s'appelait Michel Tanguy. Et c'était un copain à mon père. Et donc, quand j'étais petit, ils nous envoyaient à Bréa.
Oui.
J'avais peut-être 7-8 ans. Et j'ai le souvenir d'être dans la cale du bateau, et de me dire qu'est-ce qu'il était grand, quoi. Et là, ben, des années plus tard, je me dirais, puis on l'a racheté, on l'a retapé, on l'a remis à la voile. Et bon, moi, j'ai grandi maintenant et j'ai vieilli aussi, mais ça, c'est un super sentiment de... Oh, je me dis, la vache, c'est chier, quoi. C'était dans les années... je suis né en 59, donc dans les années 66, 67, 68.
Et Moum, vous étiez sur le tas d'algues, alors sur le
Je me souviens dans la cale, ça devait être à l'allée, mais je sais pas si... Il nous a amené à la pêche, quelques gens de l'armoire, là, et lui, il partait, je sais pas où, et il nous reprenait le soir. Et je me disais, maintenant, personne n'oserait faire ça. Tout le monde aurait peur qu'il se passe quelque chose. Mais à l'époque, ça les dérangeait pas. Hein. Les gens faisaient des balades. Maintenant, on a toujours peur de faire plein de choses.
Vous vous laissez sur l'île, Moum, quoi. On vous disait.
On vous laissait sur un îlot aussi à la pêche.
Ouais. Vous étiez entouré par l'eau, donc vous ne pouviez pas vous enfuir, c'est ça?
En plus. Bah, je regarde pour qu'on n'ait pas trop bordé ici, là. Parce que c'est pas la peine de... Ici, c'est l'île Bénigueux à droite, Ragueneuse à gauche. C'est ça, Guy, je crois.
Après, on va voir la chèvre, le bouc.
Un cormoran. Un phoque, là. Vous voyez la tête?
Ah, oui.
Pas quel langage il parle, lui, par contre.
Il parlait en breton.
Bah, t'es né, hein.
Un carton de... Le cahier de Faudac est tombé d'un grenier, a été revendu un peu à la sauvette. Maintenant, les œuvres sont en partie éparpillées.
Oui, certainement, puisqu'il y a aussi une vente aux enchères à Saint-Brieuc et où une dizaine de carnets ont été vendus à des particuliers. Et il y a aussi d'ailleurs des galeristes, des antiquaires qui se sont arrangés pour acheter ces œuvres ensemble et les vendre. Et ma foi, mon souhait aujourd'hui, c'est qu'une partie de l'œuvre provenant de la famille Faudac puisse tomber dans le domaine public, être offerte à un musée et puisse ainsi être mis en exposition pour le grand public.
On m'a dit que certains dessins avaient été détachés des cahiers. Alors, oui. C'est vraiment des feuilles volantes maintenant.
Oui, absolument, c'est des feuilles volantes et je trouve ça dommageable que des carnets de Faudac puissent être ainsi dispersés, les feuilles... peut-être proprement arraché, on va dire, mais ça retire de la cohérence aussi au récit et au travail de l'auteur et à son intimité.
À peine a-t-il eu une cote que il a été tout de suite dispersé.
Et oui, il redisparaît, il repart à l'ombre, enfin à l'ombre, on va dire, dans d'autres quartiers, dans d'autres lieux fermés et privés.
Et loin des yeux.
Oui, loin des yeux, oui.
Merci à Guy Prigent, Monsieur et Madame Lostis et Yves Montfort, à la Madeleine en pleine forme et à flot, à ses capitaines Jean-François et Yvon. Mystère Faudac, un documentaire proposé par Najma Boikra et réalisé par François Test.
Retrouvez sur le site de l'heure du documentaire des photos, des liens, des vidéos et toute une bibliographie afin de prolonger votre écoute. La semaine prochaine, l'heure du documentaire vous propose une semaine sur le thème de nos amis les animaux.